VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Washington inculpe un cerveau présumé de 2 attentats djihadistes meurtriers en 2016 au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.
Le chef d'état-major interarmes des États-Unis, le général Mark Milley, promet une décision sur la présence militaire américaine en Afrique, notamment dans la région où opèrent la France et le G5 Sahel, d'ici 2 mois.
Au Bénin, des affrontements entre les forces de l'ordre dans le fief de l'ex-président Boni Yayi ont fait 2 morts.
Ici à Washington, le Sénat a ouvert solennellement jeudi le procès en destitution du président Donald Trump, le 3e de l'histoire des États-Unis à être confronté à une telle éventualité.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La justice américaine a indiqué hier avoir inculpé un Malien déjà détenu dans son pays pour avoir joué un rôle central dans 2 attaques djihadistes qui, en 2016, avaient fait 49 morts, dont un Américain, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Le point avec Jean-Roger Bion.
Mimi Ould Baba, 32 ans, est accusé d'avoir aidé à préparer l'attaque du 15 janvier 2016 contre le café-restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou. L'attentat avait fait 30 morts, majoritairement des Occidentaux, dont l'Américain Michael Redring, qui dirigeait un orphelinat et un centre d'aide pour femmes au Burkina, a rappelé le ministère américain de la Justice dans un communiqué. L'attaque avait été revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique Aqmi et le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Mimi Ould Baba est aussi accusé d'avoir participé à la préparation de l'attaque du 13 mars 2016 sur la plage de la populaire station balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle avait fait 19 morts, dont 4 Français. Mimi Ould Baba a été arrêté en janvier 2017 au Mali par les soldats français déployés dans ce pays et accusé d'avoir été l'un des cerveaux de l'attaque de Grand Bassam, revendiquée par Aqmi. 2 mois plus tard, les autorités burkinabées l'avaient identifié également comme le chef des opérations de l'attaque de Ouagadougou. Nous soutenons pleinement l'enquête malienne et continuerons nos efforts avec les autorités là-bas en vue d'arriver à notre objectif partagé de tenir Baba pour responsable de ces crimes, a déclaré le ministère américain sans préciser s'il demanderait l'extradition de l'accusé après la procédure malienne.
Le chef d'état-major interarmes américain, le général Mark Milley, a indiqué hier que les États-Unis prendront une décision sur le niveau de leur présence en Afrique, notamment dans la région où opèrent la France et le G5 Sahel, d'ici 2 mois environ. C'est ce qu'il a dit à des journalistes après une réunion à Paris avec son homologue français, le général François Lecointre. Le Pentagone, dit-on, veut recentrer ses efforts vers les concurrents stratégiques des États-Unis, la Chine et la Russie. Lundi, le général Milley avait prévenu que les États-Unis entendaient réduire leur présence militaire en Afrique.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, assistera à la conférence internationale sur la Libye organisée dimanche à Berlin. À cette occasion, il fera part de son soutien aux efforts pour consolider la trêve, a indiqué jeudi le département d'État. Monsieur Pompeo devrait exhorter les forces étrangères à se retirer de la Libye ravagée par la guerre civile et exiger une reprise du processus de paix sous l'égide des Nations Unies.
L'un des principaux acteurs de la crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, poursuit ce vendredi ses entretiens à Athènes, 2 jours donc avant la conférence de Berlin, à laquelle il s'est dit prêt à participer. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans la capitale libyenne Tripoli, Faez al-Sarraj a confirmé sa présence à la conférence de Berlin. Le maréchal Khalifa Haftar a reçu hier le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas. Il a indiqué vouloir contribuer au succès de la conférence de Berlin et être prêt sur le principe à y participer. M. Haftar est arrivé hier à Athènes pour des entretiens avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères grec ce vendredi. La Grèce, qui n'a pas été invitée à la conférence de Berlin, s'oppose aux accords conclus le 27 novembre entre le chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ces accords permettent à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. M. Erdogan a déclaré hier que son pays allait commencer dès que possible à faire des forages dans ces zones contestées riches en hydrocarbures. Il y a une semaine, après une réunion au Caire, l'Égypte, la France, la Grèce et Chypre ont jugé ces accords nuls et non avenus. La Grèce menace de mettre son veto au sein de l'Union européenne si les accords Ankara-Tripoli ne sont pas annulés.
Au Bénin, 2 civils ont été tués et 6 policiers blessés dans des affrontements mercredi entre les forces de l'ordre et des habitants de Savé, ville du centre du pays, fief de l'ancien président Boni Yayi, principal opposant à son successeur, Patrice Talon. Au cours d'interpellations, des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police, blessant grièvement 6 agents, a déclaré Adjima Khalifa Djimila, procureur au tribunal d'Abomey.
Les forces de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu pour se dégager de cette situation, a poursuivi le procureur, justifiant les tirs à balles réelles par la légitime défense. Des affrontements ont éclaté la semaine dernière dans ce fief de Boni Yayi à la suite de l'arrestation de l'un des meneurs présumés des manifestations post-électorales de juin dernier.
5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest ainsi que la Guinée, réunis à Abuja, ont dénoncé hier la décision de remplacer le franc CFA par l'écho. Pour eux, cette décision annoncée en décembre par le président ivoirien Alassane Ouattara n'était pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la CDAO pour mettre en place une monnaie unique. Précision de Gilbert Tamba.
Il s'agit des ministres des Finances du Nigeria, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Ghana, du Libéria et de la Gambie. À l'issue d'une concertation à Abuja, ils ont accusé le président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir unilatéralement pris la décision de création de l'écho sans consulter les autres pays membres de la CDAO. Les gouverneurs des banques centrales de ces pays ont également pris part à cette rencontre. Les 6 pays appellent à une réunion urgente des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO pour discuter de la monnaie unique régionale. En décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé que le franc CFA serait renommé ECHO. Le franc CFA est utilisé par 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les ministres ont indiqué que l'action du président Ouattara n'est pas en droite ligne avec les décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO qui ont adopté ECHO, le nom de la nouvelle monnaie indépendante commune de la CDAO. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le procès en vue de la destitution ou de l'acquittement du président Donald Trump a commencé hier au Sénat avec la lecture solennelle de l'acte d'accusation. Compte rendu de John Linden.
D'un ton grave, le procureur en chef Adam Schiff a lu l'acte d'accusation adopté le 18 décembre après un débat houleux à la Chambre des représentants. Donald John Trump, président des États-Unis, a été mis en accusation pour des crimes et délits graves, a-t-il énoncé. Il a agi d'une manière contraire à la confiance placée en un président et subversive pour la conduite du gouvernement. Selon l'acte d'accusation, le président a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son rival potentiel à la présidentielle de novembre, et exercer des pressions en gelant une aide militaire cruciale à l'Ukraine. Le président américain est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction à la justice. 7 élus démocrates de la Chambre basse désignés procureurs se sont présentés au Sénat.
Les sénateurs chargés de juger le président Trump ont prêté serment et le procès a été ajourné jusqu'à mardi quand les débats de fond vont débuter. Pour sa part, le président Trump continue de se présenter en victime d'une chasse aux sorcières. Il a prédit hier que son procès devant le Sénat serait très vite bouclé.
En Iran, le président Hassan Rouhani a affirmé hier vouloir éviter la guerre après que Téhéran et Washington ont semblé à 2 doigts de l'affrontement militaire direct début janvier pour la 2e fois en moins d'un an. À l'approche des législatives du 21 février, annoncées comme difficiles pour le camp modéré de M. Rouhani et dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran et les Occidentaux sur le programme nucléaire iranien, M. Rouhani a déclaré également vouloir continuer de dialoguer avec le monde sur cette question. Le 8 janvier, Téhéran a attaqué des cibles militaires américaines en Irak en représailles à l'élimination par Washington du général iranien Qassem Soleimani 5 jours plus tôt à Bagdad.
L'Union européenne saisira l'Organisation mondiale du commerce si l'accord commercial préliminaire entre Pékin et Washington entraîne des distorsions commerciales au détriment des entreprises européennes. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Pékin l'ambassadeur de l'UE, Nicolas Chapuis. La Chine s'est notamment engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains en plus sur 2 ans par rapport au niveau de 2017. L'UE craint que cela ne se fasse au détriment des compagnies européennes délaissées au profit des firmes américaines.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Trafigura a acquis 49,9% de part de la centrale solaire de Kita au Mali. Selon l'agence Ecofin, l'infrastructure d'une capacité de 50 MW aurait une valeur estimée à 78 milliards de dollars. La production de la centrale électrique de Kita sera cédée à la compagnie électrique nationale malienne dans le cadre d'un accord de rachat d'électricité conclu pour 28 ans. Elle sera officiellement inaugurée cette année et permettra d'alimenter 91 700 ménages. La Côte d'Ivoire a conclu un prêt de 258 millions d'euros avec Exim Bank de Chine pour le barrage de Gribo-Popoli d'une capacité de 112 MW. La centrale sera construite par la compagnie chinoise Sinohydro. Elle réduira le tarif électrique national en augmentant la part de l'hydroélectricité dans le mix énergétique ivoirien grâce à une production d'environ 580 gigawatts d'électricité par an. Les travaux démarreront dès que le financement sera disponible et dureront 40 mois. Le Ghana et la société allemande Siemens ont conclu un accord de 250 millions d'euros pour l'extension du réseau électrique national. Ce projet permettra aussi au Ghana d'exporter l'électricité au Bénin, au Burkina Faso et au Togo.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cannes 2021, la CAF confirme les nouvelles dates des éliminatoires.
Oui, dès le mois de mars prochain, la suite des qualifications pour la Cannes 2021 avec les deuxième et troisième journées sur le continent. Puis le tournoi se poursuit en juin avec la cinquième journée. La sixième journée, elle, se disputera donc fin août, début septembre. À l'issue de ces éliminatoires, débuteront celles de la Coupe du Monde 2022. Ce sera en octobre avec la première journée, la deuxième journée en novembre. La compétition se poursuivra en 2021 avec les troisième et quatrième journées en mars. Le tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 est prévu le 21 janvier prochain.
Le Marocain Youssef El Nesiri signe à Séville.
Oui, l'attaquant de Leganés, âgé de 22 ans, a été recruté par Séville jusqu'en 2025, a annoncé ce jeudi le club andalou. Le club ne donne pas le montant du transfert, mais la presse espagnole l'estime à environ 20 millions d'euros. Formé à Malaga, En Nesiri a disputé à 21 ans le mondial russe, marquant un but face à l'Espagne.
Italie, Ashley Young va quitter Manchester United pour l'Inter Milan.
Oui, l'international anglais va rejoindre l'Italie pour s'engager avec l'Inter Milan. C'est ce qu'a assuré hier la presse italienne. L'ancien milieu offensif reconverti en latéral, âgé de 34 ans, est attendu aujourd'hui en Lombardie pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 18 mois avec le club interiste. C'est ce qu'a indiqué la Gazzetta dello Sport. Manchester United devrait recevoir une indemnité de 1,5 million d'euros assortie de bonus pour un joueur acheté 19 millions d'euros à Aston Villa à l'été 2011. Oui, quadruple MVP de la saison régulière, LeBron James accentue son avance en tête des votes pour le All-Star Game du 16 février à Chicago devant le Slovène Luka Doncic et le Grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo. Selon un nouveau dépouillement publié jeudi par la NBA, à 4 jours du matin Luther King Day, qui marquera la fin du scrutin ouvert au monde entier, le King des Lakers a recueilli 4 747 887 voix, soit 149 564 de plus que Doncic, le prodige de Dallas, 20 ans à peine, et 273 780 de plus que le Greek Freak, désigné meilleur joueur de la Ligue la saison passée. Et pour terminer, quelques résultats de la NBA, bien sûr en basketball.
LA, Clippers et Orlando 122 à 95, Denver et Golden State 134 à 131, Milwaukee et Boston 128 à 123, Phoenix et New York 121 à 98, La Nouvelle-Orléans et Utah 138 à 132.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, campagne pour les législatives du 16 février. Selon la Commission électorale nationale indépendante, 29 partis politiques sont retenus pour ce scrutin, boycotté par les principaux partis d'opposition. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'écrivain guinéen et professeur de mathématiques Thierno Monenembo.
C'est normal, c'est légal, légitime. En plus, je pense que c'est une très bonne stratégie. Si monsieur violé tous les principes du droit et de la morale, c'est le pouvoir. On va le laisser faire tout seul. L'histoire va le juger tout seul. Aucun d'entre nous doit être complice de cette mascarade-là. On laisse faire, on va voir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il va aller se finir. Il soutient parfaitement l'opposition.
Mais la politique de la chaise vide n'a jamais rapporté gros. Hein. On a vu l'expérience du Togo déjà.
Vous savez, l'expérience de la chaise vide, la situation n'est pas exactement la même. Il y a un ras-le-bol général en Afrique. Les méthodes s'épuisent, les figures du président du pouvoir se raccournissent. Tout cela compte, il y a un ras-le-bol du peuple. On va le laisser faire. Et je vous assure que ça paiera.
L'opposition accuse Alpha Condé de vouloir rester au pouvoir. Mais accuser, ce n'est pas une preuve.
Non, accuser n'est pas une preuve en tant que telle. Mais si jamais on était devant un tribunal, il ne manquait même pas de pièces à conviction. Tout de même, cet homme est au pouvoir depuis bientôt 10 ans, dans des conditions rocambolesques. Alpha Condé n'a jamais été élu président. Déjà, tout le monde le sait. Le monde entier le sait. La méthode du gouvernement rappelle celle de ses prédécesseurs. Voici un homme qui réunit à lui seul tous les travers de ses prédécesseurs. La cruauté de ses coupes, KBJ de la salle à côté, série de la discamara, et c'est racisme de ses coupes à côté. C'est un président en un, il est tous de mauvaise qualité.
Mais on lui tient un procès d'intention quand même. Il a été élu, il n'a pas encore dit quelles sont ses intentions.
Tout le monde sait qu'il n'a jamais été élu. Il s'est passé 5 mois entre 2 tours. Le fichier électoral était brûlé. 18% au premier tour. Il passe au second tour à 53%. Dans quelles conditions tout le monde le fait? Bon, on sait comment le président se tient.
Troisième mandat ou pas de troisième mandat? Il n'a rien dit.
Ne soyez pas naïf, monsieur. Excusez-moi. La première personne qui a parlé du troisième mandat était un autre fonctionnaire de police de Jérusalem. Il a été immédiatement bombardé, conseiller à la présidence. Un autre en a parlé, il a aussi eu une promotion, etc. Et tout vient dans sa commune, c'est une mandance de longue date, ça. C'est un projet, un vieux projet, qui est en place depuis longtemps. Tout le monde sait qu'il connaît ses intentions. Il veut un troisième, voire même un quatrième mandat, ou un cinquième. Vous savez, c'est la tradition chez les Bongos, la tradition chez les Yabima, ce sont ses amis, hein. Et comme on dit ici chez nous, à force de fréquenter la bête, le bête de l'infini, pas sentir la bête.
L'écrivain guinéen Thierno Monenembo.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest dénoncent ce qu'ils ont appelé la décision unilatérale de renommer ECHO, le franc CFA, annoncée en décembre par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée, qui ne fait pas partie de la zone CFA, affirment que cette décision n'était pas conforme au programme adopté récemment par l'ensemble de la région pour mettre en place une monnaie unique. Un sommet réunissant les chefs d'État de ces 6 pays est prévu bientôt pour décider de la conduite à suivre. Eric Manera Kidza a joint à Toronto l'économiste Prime Nyamoya.
Le Nigeria représente environ 75% du produit intérieur brut de la CDAO aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, quant à elle, représente 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 États ouest-africains qui ont en commun le franc CFA. Donc, s'il n'y a pas d'accord préalable sur le plan politique, je vois très mal comment cette monnaie verra le jour. Et je doute fort qu'il puisse y avoir un consensus rapidement sur cette question. Parce qu'il y a ici une contradiction entre deux conceptions diamétralement différentes.
Il y a donc un problème au niveau de la démarche.
Il y a beaucoup de zones d'ombre. Toutes ces questions ne sont pas encore résolues. Il faudra d'abord que ces zones d'ombre soient complètement identifiées avant de pouvoir avancer vers la création d'une monnaie commune, l'ECO, pour l'ensemble de la CEDEAO.
Donc vous voulez dire que ces pays ne sont pas prêts?
Non, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts.
La création d'une monnaie régionale, c'est tout un travail des techniciens qui doivent identifier les différents facteurs pour mettre en marche la monnaie. Et après vient la décision politique. Mais où est-ce que ça bloque normalement? Si on a tout, on devrait y aller rapidement.
Moi, à mon avis, c'est que les politiques sont toujours très pressés de prendre une décision sans certainement attendre l'avis des spécialistes, comme c'est souvent le cas. Et puis, on arrive à des situations où les chefs d'État font des déclarations qui ne sont pas suivies des faits. Par exemple, on s'était convenu en juillet 2020, il y aurait création de l'ECO. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Les enjeux politiques priment sur les enjeux économiques. Sur la monnaie, d'abord, c'est une question qui doit être débattue au niveau des politiques avant de descendre en bas dans le domaine technique. La gestion du monnaie, la politique monétaire, les taux d'intérêt, tous ces problèmes sont d'essence technique. Mais il faut préalablement qu'il y ait une entente sur le plan politique. Si ce n'est pas le cas, moi je vois très mal comment cette monnaie éco pourra un jour voir le jour. En tout cas pas cette année-ci. N'importe quel État peut créer une monnaie. Mais la gestion de cette monnaie, le taux d'intérêt, c'est un problème hautement technique.
L'économiste Prime Nyamoya, joint à Toronto.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Abuja, la capitale du Nigeria, a été fondée il y a environ 30 ans. Pendant des années, elle a été une ville de bureaucrates jugée peu passionnante. Aujourd'hui, la ville connaît un afflux régulier de jeunes innovateurs en technologie et entrepreneurs, à une époque où l'économie nigériane souffre d'un taux de chômage élevé. Reportage de notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Un immeuble moderne de deux étages situé dans le grand quartier chic de Wousé au centre d'Abuja. Cet espace est nommé Civic Media Hub, un centre d'innovation de technologie. Ici, des couleurs chatoyantes, des espaces limités dans certains cas par des vitres transparentes, un espace bien équipé d'ordinateurs modernes, d'un système d'internet à haut débit, le tout dans un environnement calme. Steven Kiddish travaille pour Civic Media Hub.
Civic Innovation Lab. Le centre d'innovation Civic Media Hub est un centre moderne de technologie. Nous faisons la promotion de la créativité. Nous avons des espaces de bureaux où les startups peuvent venir travailler sur des idées d'innovation. Nous faisons la promotion des communautés, des formations en informatique, une école de cinématographie et tout ce que vous pouvez imaginer.
C'est mercredi matin et les bureaux sont calmes. Quelques jeunes innovateurs y travaillent. Parmi eux, Victor Eze.
I started coming to this center.
Je fréquente ce centre depuis le mois d'août 2018. J'avais des idées d'innovation et ici, il y a tout ce qu'il me faut pour faire de mes idées une réalité en utilisant des équipements modernes. Ce centre m'a permis de prendre de nouvelles initiatives et d'ajouter de nouvelles compétences à mes connaissances.
Soumaïla Mustapha est assis dans la salle commune de 9 collaborateurs. Il est concepteur créatif, une start-up qui loue aussi un bureau dans cet espace par les 9 personnes.
Pour moi, personnellement, mon rôle ici, c'est d'aider les gens qui veulent démarrer une entreprise. Beaucoup ne savent pas comment faire lorsqu'il s'agit de la créativité du visuel. Donc, mon travail, c'est de les aider à convertir leurs idées en visuel pour montrer au public ce qu'ils sont capables d'offrir comme service. C'est cela, mon travail.
Civic Media Hub dispose également d'une fondation pour l'innovation qui opère dans les zones rurales. Sharon Obiakenish dirige la fondation.
Le projet est un laboratoire d'apprentissage. Nous avons un camion mobile équipé de tablettes et d'ordinateurs et de bureaux.
Avec le camion mobile d'apprentissage, nous partons dans les communautés rurales et nous apprenons aux enfants les techniques numériques sur une tablette ou un ordinateur.
À une époque où l'économie nigériane connaît un taux de chômage élevé, de nombreux jeunes profitent de ces centres pour développer leurs idées et développer de nouvelles affaires. Il y a environ 5 hubs jusqu'ici à Abuja qui reçoivent des centaines de jeunes et ce système d'espace de coworking semble bien convenir aux jeunes entrepreneurs nigériens. Il apporte une solution pratique pour l'émulation des jeunes entrepreneurs. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Langue du commerce, de la science, des affaires et de la diplomatie, l'anglais devient incontournable sur le continent africain. Le Gabon avait décidé il y a près de 8 ans de l'adopter comme deuxième langue officielle du pays. Où en est le projet ? Élément de réponse avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Le bilinguisme est expérimenté avec des fortunes diverses dans bien des écoles gabonaises. Nous sommes ce matin des invités surprises d'une séance d'évaluation des jeunes apprenants dans l'un des établissements scolaires de Libreville. Les élèves sont jugés sur les techniques d'expression orale en anglais. Annie Fanguinoveni de la classe de seconde LE à Immaculée Conception nous parle de l'importance d'apprendre l'anglais.
Je suis intéressé par l'anglais parce que c'est la langue la plus parlée au monde. C'est une belle langue et d'ailleurs tout le monde maîtrise l'anglais dans ma famille.
Pendant le cours auquel nous assistons, les échanges entre l'enseignant et les élèves se font exclusivement en anglais. C'est vrai, quelques-uns traînent encore le pas et assimilent difficilement leur cours. Reine Ogula est la voisine de salle d'Annie.
Complicate, je ne comprends pas bien. I don't understand.
L'enseignement scolaire de l'anglais connaît des obstacles. Pendi Pendi est professeur d'anglais à l'Institut Immaculée Conception de Libreville.
On n'a pas de vidéoprojecteur, on n'a pas de lecteur DVD, on n'a pas de tous les éléments qui pourraient nous amener aisément à ce que nos enfants puissent s'intéresser à l'anglais.
À l'initiative de ce projet d'adoption de l'anglais comme deuxième langue officielle du Gabon après le français, il y avait cette volonté politique exprimée au sommet de l'État, qui tarde à prendre corps. S'inspirant du modèle rwandais, le gouvernement avait même financé la formation des formateurs pour matérialiser le bilinguisme dès l'école primaire. Alain Mangwadi, enseignant, membre de la Fédération syndicale des enseignants.
Les collègues qui ont terminé leur formation sont revenus sans avoir obtenu leur diplôme. Et au lieu qu'ils soient affectés dans la formation des enseignants qui devraient par la suite enseigner dans l'établissement primaire, aujourd'hui ils sont affectés à l'IPN. Donc plus personne ne sait qu'est-ce qu'il est devenu exactement ce projet. Donc à notre niveau, aucun chronogramme d'exécution n'a été établi. Là aussi, c'est un gros problème de la majorité des projets lancés par le gouvernement. Et nous constatons que ce projet, c'est un projet de plus qui a été lancé, qui n'a pas logiquement poursuivi son cours comme prévu.
Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique. Sabu bara muniko,
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.